Radio.
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 Radio Germaine.
Popcorn, l'émission pour savourer le cinéma.
Saison 15.
Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Popcorn Salé. Et ce soir, je suis en compagnie de Juliette.
Bonsoir.
Arthur.
Bonsoir.
Et Nora.
Bonsoir.
Jeanne.
Bonsoir.
Et moi-même. Et ce soir, nous avons un programme très peu chargé pour une fois. C'est un épisode qui va être court. Donc, si vous l'écoutez en faisant une activité courte, comme par exemple des pâtes, c'est parfait. Parce qu'on pense qu'on va être, très rapide.
Waouh.
C'est
encourageant. On n'aura pas grand chose à dire ce soir, voilà. Non, parce qu'on va parler exceptionnellement que de deux films, un mélange de facteurs, la pauvreté des sorties de la semaine, notre emploi du temps surchargé. Mais en tout cas, il n'y aura que deux films ce soir, donc Bis Repetita et Vampire Humaniste cherche suicidaire consentant. Et juste avant, on va vous parler d'une question d'actualité qui n'est pas vraiment une question d'actualité, puisque ce n'est pas un phénomène spécialement récent, mais c'est un sujet qui a été réactivé, on va dire, avec la création il y a quelques semaines, au début du mois, par Justine Triet, en toute discrétion, d'une boîte de production à son nom, donc qui s'appelle JT Productions, et personnellement, ça m'a fait rire. Parce que, voilà, tout le monde a compris pourquoi ça m'a fait rire. Donc voilà, Justine Triet, ayant créé sa propre boîte de production, elle s'inscrit dans une tendance qui est pas nouvelle, puisque Pierre Ninet a créé la sienne il y a quelques temps. Il a déjà produit d'ailleurs, il me semble, une série.
Est-ce qu'elle s'appelle PN Productions ?
Non, elle s'appelle Ninetti. Je me demande si elle s'appelle pas Ninetti.
Wow.
Ça se trouve, si j'ai... Peut-être si j'ai inventé ça, je vais me prendre un procès. non, mais en tout cas, il y a plusieurs grands noms du cinéma français, que ce soit des acteurs ou des auteurs qui ont créé leur propre boîte. Et on se posait la question notamment de l'intérêt de faire ça en France, où effectivement les auteurs et autrices ont quand même... Enfin, on voit au chapitre par rapport aux États-Unis, notamment parce qu'aux États-Unis, le producteur a, comme on le sait, une place beaucoup plus importante, et du coup, c'est assez un intérêt pour des personnes qui ont déjà acquis une certaine notoriété de monter, par exemple, je pense à Ridley Scott, de monter leur propre boîte de prod pour avoir un peu plus les mains libres au niveau artistique, tout simplement au niveau de la réalisation, du casting, etc. Et donc on peut se demander, en France, où il y a quand même si évidemment les producteurs ont leur mot à dire, mais il y a quand même une beaucoup plus grande liberté accordée aux auteurs, c'est la tradition française. Quel est l'intérêt pour ces personnes qui sont connues de monter leur propre boîte? Est-ce que vous avez un avis sur cette question?
Moi j'ai une petite idée, parce que j'ai eu la chance du coup de voir Justine Triet en conférence juste avant au festival du film de Femmes de Créteil. Et moi je savais pas du tout qu'elle avait créé une boîte de production avant que tu le dises, mais elle a dit... parce qu'il y a quelqu'un qui lui a demandé si elle comptait revenir au documentaire, parce que c'est ses premières amours après les Beaux-Arts. Elle a fait des documentaires, je crois qu'elle a fait un documentaire au Brésil, etc. Et donc elle part de là, avant d'avoir fait la bataille de Solferino. Et donc quelqu'un lui a demandé: j'aimerais beaucoup voir un documentaire de vous, Justine Triet, surtout qu'elle s'y connaît très bien en justice, etc. Elle a vu énormément de procès. Et donc un documentaire potentiellement juridique, etc. Et elle a répondu que ça prenait tellement de temps d'être dans le réel, parce que sur 500 heures de rush, elle a dit, il n'y a qu'une minute qui peut être bonne dans un documentaire, qu'elle voulait en produire parce qu'elle a dit que c'était quand on est jeune, quand on avait 20, 25, 30 ans, qu'on avait le temps, qu'on pouvait partir pendant 4 ans, s'immerger totalement dans un autre monde. Et donc qu'elle aimerait beaucoup produire de documentaires et en faire elle-même, pas forcément parce que ça demande trop de temps, de logistique, en plus elle a des enfants en bas âge, etc. Mais voilà, donc elle a surtout parlé de production documentaire.
Ok, et en tout cas on va lui envoyer des CV et des propositions à Justine. Elle va nous entendre parler de nous. Arthur, est-ce que tu as un truc à rajouter?
Ouais, moi c'est la question que je me pose. Alors je connais vraiment pas du tout le cas français de réalisateurs ou de réalisatrices qui deviennent producteurs ou productrices, et de même pour les comédiens. C'est sûr qu'aux États-Unis ça a un poids beaucoup plus important. Tu l'as dit, Ridley Scott a sa propre boîte de production. La plupart en fait des réalisateurs ou des réalisatrices américains, une fois qu'ils ont eu un film avec un grand succès, profitent de l'argent qu'ils ont gagné avec pour créer une boîte et pouvoir après chapeauter leurs films à eux de manière plus indépendante, parce que si c'est vous qui produisez le film, vous avez, comme on l'a dit au début, tout un tas de privilèges que les producteurs ont et qui sont différents en France. Et du coup, on a eu la naissance aux États-Unis, en fait, des espèces de monstres un peu comme les Spielberg ou des réalisateurs, producteurs, en fait, hyper puissants qui avaient mainmise sur toute une partie de l'industrie. Et je me demande si on va voir ça, alors, bien sûr, à l'échelle française, en fait, mais avec des maisons de production créées par des acteurs, des actrices ou des réalisateurs et des actrices. Moi, c'est une question que je me pose. Je ne sais pas si l'industrie française, elle est capable de faire ça, surtout qu'aujourd'hui, la place des réalisateurs dans le cinéma français, elle est beaucoup plus prestigieuse que la place des cinéastes dans le cinéma américain, en fait, où ils sont complètement mis à la merci des producteurs, hormis si, en effet, ils font partie des 20 qui ont leur boîte de prod et tout ça. Et c'est assez intéressant de voir qu'aux États-Unis, on a vraiment des acteurs qui sont devenus maintenant plus des producteurs. Mmh. Je pense à Tom Cruise, par exemple, qui est vraiment un producteur qui joue dans les films qu'il produit.
Même Margot Robbie, ouais, Margot.
Et un exemple que j'avais pas vu, mais aux États-Unis marche un peu, c'est même Jennifer Lawrence, en fait, qui après s'est fait broyer par les studios américains parce qu'elle a été dans des franchises qui ont fini par couler, les Hunger Games, les X-Men et tout ça. C'est redonner un second souffle en produisant, et même Margot Robbie, en vrai, t'as raison de noter, c'est ça aussi, hein. C'est une actrice qui a été très vite un peu broyée par le système hollywoodien et qui aujourd'hui ressort en étant capable de produire ses propres films-là. Donc cet aspect où des comédiens et des cinéastes deviennent petit à petit producteurs, productrices, je sais pas si en France ça peut le devenir.
Si je peux rajouter quelque chose sur les cas des actrices, du coup, j'avais vu un assez bon réel sur Instagram, je me souviens pas là, mais si jamais je me souviens, je mettrai dans la description du podcast, mais qui disait qu'en vrai, il y avait un vrai enjeu féministe sur quand on est actrice et qu'on reçoit plein de scénarios qui présentent des rôles féminins peu intéressants, voire vraiment mal écrits, de se réapproprier le truc et de justement devenir du coup soi-même productrice et avoir sa boîte de production, justement pour pouvoir jouer dans des rôles où on a le contrôle dessus, on a le contrôle sur le scénario par le pouvoir qu'a le producteur. Et du coup, moi, c'était vraiment ça qui était mis en avant, cette espèce de rôle féministe, pour le coup, pour les actrices, parce qu'on citait Emma Stone, on citait du coup, évidemment, Margot Robbie, qui était du coup nommée aux Oscars, non pas en tant que meilleure actrice, mais en tant que... Enfin, comme Barbie était nommée en meilleur film aux Oscars, c'est le producteur et la productrice qui vont récupérer la statuette normalement. Donc voilà, elle était nommée, elle, en tant que productrice et non en tant qu'actrice. Et c'est vraiment conscientisé de la part de ces actrices-là, elles le revendiquent, et je trouve que ça, c'est un beau message. La question se pose de, en France, quel parallèle on peut voir aussi, et là, c'est peut-être un peu plus flou.
Je rebondis là-dessus, Juliette, parce que effectivement, cet enjeu féministe, il est aussi revendiqué, par exemple, par Reese Witherspoon, qui a eu des rôles plutôt minimes et effectivement assez caricaturaux dans sa carrière, et qui, lorsqu'elle a pris la casquette de productrice, s'est beaucoup attachée à acheter des droits de livres qui l'intéressaient, où elle voyait des personnages féminins complexes, et c'est elle qui produit Gone Girl, puis Big Little Lies, en ce sens. Et sur la question des acteurs en France qui se saisissent d'une casquette de producteur, parce que tu évoquais Pierre Ninet en introduction, Valentine, je pense qu'il y a effectivement aussi l'ambition de potentiellement faire vivre des films qui n'auraient pas été pris en mettant son nom dessus avec le rôle de vedette et en prenant peut-être un rôle que l'acteur producteur trouve intéressant à incarner pour lui donner une force de frappe et une influence plus importante.
Et voilà, et si on est un peu plus pragmatique et vilain, c'est peut-être aussi financièrement un moyen d'investir dans quelque chose qui trouve gratifiant et sympathique, des cachets qui sont gagnés. Enfin, par exemple, je pense à Justine Triet, je pense qu'elle va investir pas mal même si elle n'a pas gagné non plus des sommes phénoménales pour Anatomie d'une chute, elle a tout. Enfin, je pense qu'en tant qu'artiste, elle va le réinvestir pour créer des nouvelles œuvres. Donc, ça peut aussi être un moyen de le faire de manière, je pense, plus autonome et peut-être plus avantageuse pour eux. Et concernant juste la comparaison avec les acteurs français qui se convertissent à la production, moi, je pense qu'il y a déjà un mouvement en France d'acteurs qui se convertissent à la réalisation, qui est déjà intéressant. Mais innombrables personnes.
Un peu de tout. Je pense à Mélanie Laurent qui avait produit Demain avec Cyril Dion, ouais, etc. et qui a fait Voleuse, qui apparemment, moi je ne l'ai pas vue, mais n'est pas terrible, et je crois qu'elle a réalisé Produit aussi, et qu'elle joue dedans.
Ouais. Ouais, après, Mélanie Laurent, je vais pas cracher sur elle à l'antenne, mais bon, elle est quand même aussi dans un délire ego trip, tu vois, quand ouais. tu produis, réalises et joues dans ton truc trois fois de suite pour faire de la. Pardon, pour faire des
c'est
produits.
C'est marrant, mais tu dis pas ça de Tom Cruise.
C'est vrai.
Non, puis ça pose aussi la question plus largement de la différence entre ces métiers, parce qu'un bon réalisateur n'est pas nécessairement un bon producteur, et ça demande aussi des qualités qui sont complètement différentes, notamment en France.
Ouais.
Enfin, je sais pas, moi ça me pose question, pas nécessairement par rapport à Justine Triet, on adore Justine Triet, Queen Justine, mais juste ça pose des questions sur les spécificités de chacun des métiers, et quand on est réalisateur, ça veut pas dire qu'on sait tout faire et qu'on a les qualités requises pour tout faire absolument.
Bien sûr, après ça s'apprend, et voilà.
Oui, non mais bien sûr.
Oui.
Je pense qu'un comédien ou un cinéaste qui est producteur en même temps, il n'a pas le même métier qu'un producteur qui est producteur à plein temps, c'est-à-dire qu'il va pas avoir... même au sein de sa petite entreprise, le même poids et le même rôle qu'aurait un producteur qui est juste... Tu vois, quand je vois Pierre Niney, je pense pas que Pierre Niney...
Il fait pas des dossiers d'aide aussi.
Non, tu vois, genre, je pense pas que Pierre Niney, tu vois, il a le même... C'est un monde que je connaissais mal, mais je pense pas qu'il a le même rôle qu'un producteur qui bosse dans une boîte de production classique, tu vois. Je pense que, comme ça a été dit, il y a un côté marketing de ces produits par Pierre Niney, où tu puisses mettre le nom sur l'affiche, que ça puisse un peu faire clinquant. Et ça marche très bien, on le voit, et encore une fois, j'ai plus d'exemples sur le cinéma hollywoodien, mais de réalisateurs, d'acteurs qui produisent des films, enfin le nombre de films qui sont produits par Scorsese, où c'est juste Scorsese qui a mis un tampon « je valide », puis qui a envoyé « il n'y a jamais vu », enfin toute la promotion qu'il y a eu sur Joker, parce que vite fait, il y avait un moment Scorsese qui avait vu passer le scénario, tu vois, et moi, il y a aussi un truc comme ça, de je me demande c'est quoi être producteur quand tu es comédien ou réalisatrice, tu vois. Je pense qu'il y a un degré variable d'implication et des buts qui sont très différents les uns des autres entre ceux qui veulent mieux gérer leur propre film, entre ceux qui veulent donner des petits coups de pouce aux copains ou alors des films qu'ils trouvent sincèrement bons et ceux qui ont une vraie démarche de producteur-productrice. Je pense qu'il y a un panel très différent et c'est intéressant, je pense, de le voir au cas par cas pour le coup. Et du coup, moi, je suis intéressé de voir ce que va faire Justine Triet avec ça.
Non, mais bien sûr, mais justement, c'était aussi pour ma remarque, c'est plus pour revaloriser les petits producteurs qui, parce qu'ils ne sont pas passés par la réalisation, on ne les connaît pas, parce qu'effectivement, c'est moins des métiers qu'on met en valeur et que c'est aussi un métier qui est important et que tout le monde ne peut pas faire comme ça. Ça a des qualités propres, voilà. Mais je suis complètement d'accord avec toi.
Oui, et pour ajouter de l'eau à votre moulin, du grain à moudre. on peut repenser à Nawal Madani qui avait produit, réalisé, joué dans une série Netflix un peu à la demande de Netflix, genre tu vas incarner la série dans son entièreté, et ce qui avait été révélé comme un énorme fiasco du point de vue du tournage pour tous les techniciens qui travaillaient sur le projet, et assez justement Mediapart avait relayé l'affaire en disant mais en fait pourquoi et comment on peut attendre de quelqu'un qui n'avait jamais fait ça auparavant d'assumer toutes ses responsabilités. Et en fait, est-ce que la vraie responsabilité, elle vient pas de Netflix qui aurait dû l'épauler dans ce rôle et faire son vrai rôle de producteur sur le projet?
Tout à fait. Et bah écoutez, c'est un débat qui finalement s'est révélé super riche. Super, bravo, merci. On va tout de suite passer au premier film de la semaine, Bis Repetita, qu'Arthur va nous présenter.
Bis Repetita est un film de Émilie Noblet qui décline l'aventure de Louise Bourgoin en tant que prof de... en tant que...
C'est fait exprès le décline.
Oui.
Qu'est-ce qu'il est fort, moi j'avais même pas entendu.
Qui décline l'histoire du coup de Louise Bourgoin, une professeure de latin qui est particulièrement paresseuse et qui a organisé un petit système pour ne jamais travailler. Et qui se retrouve envoyée en Italie avec sa classe dans un concours de latin international qu'elle doit absolument remporter. Elle va être accompagnée pour ça d'un thésard qui lui croit que le latin est accessible à toutes et à tous. Et est-ce que vous, ce film vous a parlé, Juliette et Nora, qui c'est qui veut commencer?
Bon, je peux commencer. J'ai pas grand chose à dire sur ce film à part que c'est... Enfin, j'ai trouvé que c'était une bonne comédie. J'y suis allée sans forcément avoir d'attente. Et puis c'était une bonne surprise, j'ai rigolé assez souvent, contrairement à par exemple La vie de ma mère qui était assez déplorable, j'avais trouvé.
Non, on crache pas sur les films sur lesquels on a déjà craché.
Voilà, je trouvais qu'il y avait quelques ressorts qui étaient attendus, mais c'était quand même assez bien mené. Que dire de plus? Déjà, j'ai remarqué que tout était plus ou moins fait par des femmes. C'est une réalisatrice. Elles sont deux à avoir... Enfin, la réalisatrice et une co-scénariste à avoir écrit le film. La musique est faite par une femme, etc. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. Et puis, en ce moment, il y a pas mal de films sur les profs, mais j'ai trouvé que celui-là se démarquait. Bon, j'ai dit la même chose de La Salle des Profs, mais c'est démarqué d'un autre... Enfin, La Salle des Profs, c'est un thriller et ça, c'est une comédie, donc c'est différent, mais voilà. Et puis, au niveau de la musique aussi, j'ai trouvé ça très original, les petits hits en latin. Ça m'a fait revivre quelques petits traumas de latiniste.
Ah, ça donne trop envie, hein.
Notamment...
mais no joke, ces reprises en latin sont... Franchement, bonnes.
Sont bonnes. Il y a Pour que super. Tu m'aimes encore ouais. de Céline Dion.
Ok, bah, je l'écouterai ce soir.
Voilà. Voilà, j'ai revécu des petits traumas de latiniste, notamment mes profs qui pendant 6 ans nous ont répété qu'on irait en Italie et ça ne s'est jamais fait. Voilà. Alors, et je continuais le latin juste pour aller en Italie.
Mais t'as fait latin au lycée ?
Oui. Ça m'a rapporté plein de points au bac.
On parle plus latin.
Il n'y avait plus. Eh ben, écoute, Xavier Lacaille dans le film te dirait le contraire. Il est pour l'immersion. D'ailleurs, ça m'a fait penser à une anecdote. Ma prof de latin au lycée qui un jour s'était mise à nous parler en latin pendant tout le cours et nous demandait de répondre en latin. Donc voilà, on finissait par répondre en espagnol finalement. Mais en vrai, c'était un bon film. J'aime beaucoup Louise Bourgoin. J'ai trouvé que c'était très bien joué. Voilà, enfin j'ai pas grand chose à dire sur le plan formel à dire.
Bah moi écoute, je vais te rejoindre, je trouvais que c'était un film qui, s'il ne cassait pas trois pattes à un canard, on va pas se mentir, était une bonne comédie divertissante, bien faite, avec des idées que j'ai trouvées plutôt originales. Après moi j'ai un rapport très particulier avec les films qui présentent les fictions qui présentent des œuvres de voyage en Italie avec le latin, vous allez rire, mais mon roman préféré quand j'étais genre au collège, c'était un truc pour ados qui présentait littéralement un voyage scolaire en Italie avec le latin et tout, mais c'était vraiment mon truc, enfin bref, donc j'ai un peu une fixette dessus, donc j'étais
moi c'était Anna Karenine perso, mais j'ai
ce n'était pas Balzac, mais
chacun ses intérêts
c'est ça mais du coup j'ai peut-être une sensibilité particulière pour le sujet, mais je trouvais que c'était bien amené, les personnages sont super drôles, mention spéciale à Xavier Lacaille qui, en plus dans le film, d'être super drôle et vraiment bon dans la vraie vie, et vraiment littéralement... parce que du coup, en fait, quand je suis allée voir le film, c'était une avant-première, je ne savais pas, mais en présence de l'équipe du film, non, je ne savais pas, et de littéralement tout le cast, dont du coup Xavier Lacaille, qui nous a fait un petit spectacle de stand-up un peu improvisé. Enfin, vraiment, le gars est incroyable. À part ça, je te rejoins, Inora. Hein. Je trouve que les acteurs sont bons, que c'est bien écrit. Enfin, les thèmes sont pas profonds, mais c'est pas pour autant que ça marche pas. Et je trouve que l'humour est assez fin. Et moi, j'aime bien justement sur le fond du film le fait qu'il y ait pas tant de morale. Enfin, c'est pas un film qui est moraliste. C'est même plus vraiment en fait une espèce d'éloge de la triche que je trouve.
Bah, l'éloge, je sais pas, mais ça ne la condamne pas, quoi.
Ça ne la condamne pas, et en tout cas, ça dit on fait chacun comme on peut, et je sais pas, je trouve que les personnages sont attachants.
Et on voit qu'elle est quand même passionnée par ce qu'elle fait.
Voilà, en fait, mais qu'on fait toujours avec les circonstances, et que quand un système est vicié, comme celui élitiste de l'apprentissage du latin, bon, on fait un peu comme on peut.
Ou l'éducation. De manière plus générale. CF, actualité.
Mais voilà, je trouvais que justement la fin n'était pas moraliste comme on l'attendait, et même s'il y a effectivement des axes qui sont bien tracés dans le scénario, il n'empêche que moi j'ai passé un bon moment et je résumerai le film par le mot Mimi. Voilà.
Oh, cute.
Je sais pas si j'ai grand chose à raconter. Moi, comme Juliette, j'ai un attachement au Vésuve parce que j'avais un jeu vidéo quand j'étais petit où j'avais 5 ans où je devais m'enfuir du Vésuve et tchatcher en romain pour résoudre une enquête. Bref. Donc, bref, j'ai un attachement avec Naples. Et non, alors le film, moi, je l'ai trouvé sympathique sans plus. C'est un premier film, je crois.
Oui, et ah oui, aussi, du coup, la co-scénariste, enfin, du coup, la scénariste qui n'est pas également réalisatrice. Nous a dit qu'elle tenait ce projet depuis au moins 10 ans, etc. C'était un truc qu'elles avaient développé toutes les deux quand elles étaient à la FEMIS, la réalisatrice et du coup la co-scénariste, vu qu'elles ont retravaillé ensuite le scénario toutes les deux. Mais voilà, c'était en fait un projet d'assez long terme et qu'elle portait depuis assez longtemps.
Ouais, bah alors c'est drôle que tu parles de ça, du coup, du fait qu'on a vu l'équipe du film juste avant la projection, puisque je trouve que ça fait toujours que tu es hyper gentil avec un film que tu vois, parce que tu as vu les gens pour de vrai et tu vois que ça leur tient à cœur et que c'est hyper important pour eux. Et
aussi, ils expliquent bien, je trouve, en général. Ouais. Ils défendent bien le film et du coup, ça donne envie de le défendre aussi.
Puis il y a bien sûr des réalisateurs ou des qui sont complètement cons, mais genre, ils ont tous l'air sympas en général, tu vois. Donc en plus, tu te dis, ah, putain, j'ai envie de bien aimer leur film, tu vois, et t'es prêt à pardonner certains trucs. Donc même si, moi, je ne saurais pas dire si si sans cette avant-première là j'aurais aimé ou pas aimé le film, le fait est que du coup je pense que ça joue quand même un petit peu sur le fait que bah, t'es content de voir le film. Moi j'ai passé un bon moment, je trouve que c'est un premier film et du coup ça se sent. Techniquement il y a des petits soucis, je pense à un plan en grue où genre à un moment la caméra est récupérée à l'épaule et tu vois en fait qu'ils sont en train de décrocher la caméra et de la transporter et tout ça.
Et voilà, je trouve qu'il y a des bonnes idées de montage, des bonnes petites idées d'écriture, des personnages bien rodés. Je pense que les situations comiques sont bien réussies. Ce qui moi pêche, c'est le scénario global qui a pas de sens, qui a ni queue ni tête et qui doit...
Soyons clairs. Le
truc, c'est qu'il doit faire aboutir les arcs de personnages de manière... Enfin, il le fait de manière hyper caricaturale, très attendue, avec d'énormes sabots. C'est un peu pénible à voir à certains moments. Mais bah, à part ça, honnêtement, les blagues fonctionnent très bien. Et les scènes comiques, en fait, fonctionnent très bien. C'est-à-dire que... Oui, il y a un vrai comique de situation qui fonctionne très bien. Et j'ai l'impression que c'est en fait des bonnes blagues, ça aurait pu être en fait une bonne série de sketchs qui ont été intégrés dans un film qui est un peu bancal au final, mais qui est interprété avec beaucoup de plaisir par les comédiens, et genre avec des bonnes petites scènes que je retiendrai au moins de ce film-là, c'était en vrai une bonne surprise.
Et bah merci beaucoup Arthur, on en a fini avec Bis Repetita, que j'ai presque envie d'aller voir juste pour les reprises en latin et chanter sous la douche. On va maintenant passer à un film québécois, qui s'appelle Vampire humaniste cherche suicidaire consentant. Pardon, excusez-moi, je trouve que c'est un super titre, donc je suis un peu émue en le prononçant. Est-ce que Jeanne, tu aurais l'obligation de nous le présenter ?
Alors, avec grand plaisir. Comme on l'a dit, c'est donc un premier film d'Ariane Louis XVI, une réalisatrice québécoise, et le film était quand même projeté dans le cadre de la Mostra de Venise en 2023. Pas dans compétition, mais ça a été sa première projection. Il a aussi été montré au Festival du film de Toronto, donc... quand même plutôt un joli circuit de festival. Et il nous raconte l'histoire de Sacha, une adolescente qui grandit dans un contexte un peu particulier, à savoir une famille de vampires. Mais il y a un hic, car ses canines ne poussent pas. En fait, elle serait trop compatissante à l'égard des êtres humains, ce qui l'empêcherait à terme de se nourrir. Ce qui crée la discorde dans sa famille, qui cherche à la pousser, à développer ses instincts de vampire, malgré elle, jusqu'à ce que peut-être elle trouve un moyen de s'en sortir. Est-ce que Valentine, que j'ai croisée à l'espace Saint-Michel, ronflante, non pas ronflante, mais les yeux à demi fermés, tu aimerais commencer ?
Bien sûr, et c'était une simple clôture de mes paupières très passagère, ça a duré moins de d'œil, je le jure. Non, alors moi j'ai pas mal de choses à dire sur ce film en réalité, que j'ai trouvé très mauvais, je commence par poser les termes, voilà. Sur la forme, j'ai trouvé que c'était un film qui s'inspirait beaucoup de ce qu'on peut voir en ce moment, enfin de certaines esthétiques qu'on connaît tous, des films, notamment des films de Monia Chokri, mais pour faire quelque chose de vraiment moins bien, enfin pour moi, ne serait-ce que les éclairages du film qui se veulent, enfin qui sont volontairement très très sombres tout le temps, étaient pas bons du tout, parce que il y a une différence entre faire un éclairage sombre et voilà, le cinéma c'est quand même la lumière, comme disait Louis Lumière. Donc
mais il parlait de lui, il parlait pas de la lumière.
Ah ouais, tu penses bien, putain. En tout cas, film très mal éclairé, donc moi ça me dérange parce que je vois rien en fait, tout simplement. Mais genre, j'ai un peu envie de voir les acteurs quoi, comme au soleil cinéma. Quoi. Ouais. Ouais, donc très agaçant quand on a des caméras à plusieurs milliers de dollars dans les mains de faire ça.
Voilà,
ça passe pas. Et maintenant, je vais faire une critique plus constructive et intéressante. On voit tout de suite venir, dès le début du film, la métaphore la vampirisation des autres, la métaphore aussi de la puberté, de la sexualité, etc., par le sang, machin. Bon, pourquoi pas, ça a déjà été fait avec Twilight, un de mes films préférés. Mais en fait, le problème, c'est qu'on se dit, et pas que parce qu'il y a un accent québécois, que ça va être parodique, parce qu'il y a un ton comique qui est adopté dès le début, un peu comédie domestique, etc. Et on se dit donc, ok, proposition intéressante, on a des vampires, un éclairage sombre, des Québécois, et on veut que ce soit drôle, et on a le teen movie de la rencontre amoureuse et tout. Moi, je trouve que c'est un cocktail qui était prometteur, je comprends que, voilà, si c'est bien pitché, le producteur ait pu se dire, c'est super, ça va marcher. Sauf qu'en fait, on n'a pas du tout d'éléments qui sont effectivement parodiques. En fait, on a que une suite de clichés qui s'accumulent. Donc, le surgissement accidentel du sang qui va la trigger et qu'elle va se mettre à devenir folle. Le fait qu'elle veut, elle peut pas mordre son copain humain. Il va falloir qu'elle le transforme, mais sans le tuer. Alors, c'est toute une histoire de se retenir, de le tuer. Enfin, c'est juste Twilight, en fait. Il y a même des scènes qui sont... Après, je pense qu'il y a aussi une forme d'hommage. C'est super de rendre hommage à Twilight, mais en fait moi j'aurais aimé beaucoup plus de subversion dans les scènes qui s'inspirent clairement du teen movie de vampire et tout. Là j'aurais voulu que ça parte en n'importe quoi, mais sans être du tout dans le Tarantino, mais que ce soit beaucoup plus subversif en fait, parce que j'ai trouvé que les peu de fois où elle s'autorisait des scènes qui étaient vraiment originales, et je pense notamment à la scène avec sa cousine dans l'atelier de peinture qui transforme sans le vouloir un espèce de loser qu'elle a ramassé dans une boîte à la base pour le tuer et pour boire son sang, et en fait elle le transforme sans le vouloir en être éternel, et donc elle doit se le taper pendant des centaines d'années, quoi, littéralement. Et ce mec, cette scène est drôle parce que c'est quelque chose que j'avais personnellement jamais vu dans un film de vampire, ne serait-ce qu'à ce moment-là, l'éclairage et le décor sont vraiment de meilleure qualité, donc ça, on sent qu'il y a du potentiel à certains moments, mais par ailleurs, moi j'ai trouvé que ça n'allait vraiment pas du tout au bout de ses promesses, quoi. Et puis, pour couronner le tout, la performance d'acteur laisse vraiment à désirer. Pourtant, il y a des acteurs québécois très connus qui ont des tout petits rôles, notamment les voisins qui sont joués respectivement par un mec qui joue dans les films de Monia Chokri souvent et une que j'ai déjà vue dans des films de Dolan. Mmh. Mais en tout cas, voilà, des gens qui sont vraiment connus. En revanche, les deux jeunes acteurs principaux sont pour moi pas bons du tout. Enfin, c'est le jeu super illustratif. Avec une subtilité zéro, la vampire, on dirait voilà Mercredi Adams, et c'est Mercredi Adams le visage fermé tout du long sans aucune nuance. Donc vraiment j'ai trouvé que moi il y avait trop de défauts pour que je passe un bon moment. Et Nora,
Oui, je peux répondre. Alors moi j'ai plutôt aimé ce film, j'ai trouvé que c'était un coming of age intéressant. Encore une fois, je partais sans m'attendre à rien. En plus, je croyais que j'allais voir le film en VF au lieu de français-québécois, donc j'étais un peu dépitée, mais non, c'était en québécois. Et j'ai trouvé que sous ces dehors de films de genre, de vampires, ça traitait c'était un coming of age qui traitait de sujets plus complexes que ça, comme tu l'as dit, de la marginalité, de l'adolescence, même de la charge mentale de la mère qui doit constamment aller chasser des humains pour nourrir sa famille. Et certes, c'est peut-être un peu gros de temps en temps. Par exemple, je pense à la scène où elle doit mordre son copain humain. Et si tu regardes que les dialogues, en fait, tu peux comprendre que... Enfin, tu pourrais penser que c'est juste des ados qui essayent de s'embrasser ou de coucher ensemble et qui n'y arrivent pas.
Je crois que c'est vraiment le moment le plus subtil du film.
Mais c'est pas subtil du tout. Mais sinon, je trouve que ça parle, ça traite de sujets intéressants alors que c'est un film de genre, etc. Et puis c'est un film québécois. C'est toujours cool de retrouver les acteurs de Monia Chokri, comme tu as dit, Steve Laplante, Patrick Yvon, etc. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé les revoir. J'avais l'impression que je les connaissais déjà. Mais en effet, c'est un premier film. Donc après, je pense qu'il faut être quand même indulgent. Mais il y avait des longueurs.
Être indulgent.
Je pense que ça aurait pu être un excellent concept de court-métrage, par exemple. Parce qu'il y a des fois où je me suis un peu ennuyée. Je trouvais ça long. Et puis l'éclairage, en effet, est très sombre. Donc c'est pas forcément agréable. Et j'ai vu dans la critique Télérama qui disait que ça n'avait pas la profondeur métaphysique de Only Lovers Left Alive de Jim Jarmusch, qui est en effet un film que j'aime beaucoup et qui est vraiment incroyable, où la vampire est incarnée par Tilda Swinton. Mais bon, encore une fois, c'est un premier film, en plus un film québécois, je sais pas s'ils ont beaucoup de budget. Non mais voilà, moi j'ai apprécié ce film, j'ai trouvé que c'était assez audacieux et voilà, après c'est pas le chef-d'œuvre du siècle, hein, mais c'est pas ce qu'on attendait non plus.
Oui, moi je rejoins plutôt Valentine, c'est vrai que j'ai trouvé que c'était un pitch prometteur et qui tenait pas complètement justement ses promesses. Il y a certaines choses que j'ai trouvées assez délicates et douces. C'est vrai que c'est une esthétique à laquelle on n'est pas étrangère. Tu citais Monia Chokri, mais dans le cinéma québécois, faut rendre à César ce qui est à Xavier Dolan. Donc je pense qu'il y avait aussi quelque chose de cet ordre-là, dans les couleurs, notamment une scène voilà, d'écoute de musique avec des lumières changeantes. Moi, je ne dirais pas que c'était très subtil, mais c'est une esthétique qui ne me déplaît pas nécessairement. Autrement, je suis d'accord aussi sur le fait que le film est très sombre, pas très bien joué, et surtout, puisqu'on évoque le film de genre, j'ai un peu envie de demander quel genre. Moi, je n'ai pas trouvé que c'était très drôle. J'ai pas trouvé, je pense pas que le but était de faire peur, mais bon, c'est un film qui parle de vampires. Oui, mais en fait, on sait bien qu'il parle pas vraiment de ça. Donc, y a une partie de moi qui est ressortie un peu frustrée, en sachant pas très bien ce que j'avais vu. Je cherche pas à avoir des films monolithiques dans leurs intentions, mais là, en l'occurrence, je trouvais que c'était plutôt juste fade. Et notamment, je pense à toute la deuxième séquence, parce que vous l'aurez compris avec le titre, cette vampire humaniste va trouver un suicidaire consentant. Mais avant qu'il ne consente, elle lui demande s'il a des dernières volontés. Et c'est censé être un peu une espèce de point de bascule dans le film, venir l'aider à accomplir ses dernières volontés. Mais c'est... Enfin, ça ne va nulle part, ça n'a aucun intérêt, tout tombe un peu à plat, et encore une fois, moi j'ai pas trouvé que le film était très drôle, parce que peut-être je suis pas sensible à l'humour qui était proposé, mais parce que je pense qu'il était peut-être aussi pas très étoffé, quoi. J'en ressors assez déçue, même si je le déconseillerais pas nécessairement, parce qu'on passe pas un mauvais moment devant, qu'effectivement c'est un premier film, et qu'il y a en germe de bonnes idées qui font parler ensuite.
Moi, je suis pas d'accord, parce que j'ai beaucoup aimé le film. Je suis d'accord que c'est un premier film, mais moi, j'y allais plutôt à reculons, en fait, j'adorais le titre. Désolée, Valentine, peut-être j'ai
pas grave, chacun,
mais je trouve que le titre est super. Et en fait, j'avais vu des plutôt mauvais avis sur le film, etc., qui disaient justement que c'était un concept de court-métrage, etc., donc, bon, j'y allais mi figue mi raisin, et ça ne veut rien dire. Et en fait, j'ai été super surprise parce que le film est super dynamique. Je trouve qu'au niveau du rythme, en fait, je trouve que il y a un certain rythme, il dure qu'une heure et demie, il y a un peu un ventre mou au milieu, mais au début je trouve ça super dynamique, l'esthétique est effectivement trop sombre, mais ça je l'avais vu parce que j'avais fait les visuels que vous verrez pour cette émission-là sur Instagram avant, et du coup j'avais vu que les photos, on n'y voyait littéralement rien, du coup c'était pas forcément une surprise pour moi. Je trouve que, voilà, moi, c'est une esthétique qui me plaît, encore une fois, qui me rappelle celle de Monia Chokri, mais c'est pas nécessairement un défaut. Enfin, je veux dire, en esthétique, on a un peu aussi fait le tour, souvent, donc on n'est pas nécessairement obligé d'être originaux. Si c'est un univers qui parle, qui fait sens par rapport au film, moi, je trouve que, pour le coup, c'est bien fait. Et en fait, moi, je crois surtout que j'adore les coming-of-age movies et que là, c'est une espèce de réinvention du genre parce que hybridé avec les films de genre, un film de genre qui, pour le coup, va pas trop dans le genre. C'est pas gore, etc. À la limite, je peux entendre le reproche qu'on peut lui faire de... on aurait pu mettre plus de sang, plus de trucs. Moi, ça m'a...
Ou un aspect plus fantastique.
Mmh. Ouais, moi, c'est pas... C'est ça. Moi, j'aime bien justement cet aspect un peu conte, un peu... on voit très bien que c'est pas vrai et que rien ne fait sens. Enfin, je veux dire, il y a des médecins pour vampires, il y a des psys pour vampires. Oui. Ben, c'est complètement ouf. Et moi, j'aime bien justement cette espèce de création d'univers qui ne fait pas sens. Et où si tu commences à te poser des questions logiques, ça ne tient pas debout. Mais justement, qu'elle arrive à créer cet univers-là, moi, c'est ça qui me plaît. Et les personnages, je me suis trouvé touchant. Et justement, le truc... Évidemment qu'il y va sur les gros, avec ses gros sabots, avec le truc de l'apparition des canines et machin. Et du coup, c'est la sexualité et tout. C'est tout ça. Moi, je m'en fiche que ce soit pas très subtil. Moi, je trouve que ça marche. L'humour, c'est pas nécessairement subtil, en fait. Et je trouve que ça marche. Justement, c'est le genre parodique de... Ah, on va faire comme si c'était une... On va faire comme si c'était une comédie d'ados qui font leur première fois, etc. Et que ça marche pas, machin. Mais moi, je trouve ça super réussi. Je trouve que c'est une super manière d'aborder le sujet et que ça... Oui, c'est original et que... j'ai pas vu Twilight après, donc peut-être...
Alors là,
c'est
non, mais attendez, censuré.
Ça manque clairement à ma culture cinématographique, je sais. Mais il n'empêche que... Moi, je trouve que justement, c'est ça qui rend le film drôle. C'est ces côtés parodiques-là qui sont certes très assumés, mais c'est le principe même de la la parodie, et moi justement je trouve que ça marche.
Oui, mais moi je trouve qu'un film, pardon Arthur, après je te laisserai parler, mais je trouve qu'un film qui se référence autant, que ce soit dans la parodie, qui se référence même en termes d'hommage esthétique à d'autres réalisateurs québécois en l'occurrence, qui se référence au teen movie de vampire qui a été quand même même pas créé, qui a été consacré par Twilight, c'est un film qui souffre de toutes ces comparaisons, parce qu'il est pas du tout à la hauteur d'aucune, comme disait Jeanne, il est pas drôle, il est pas...
Si, il est drôle, il je suis désolée, sexy, pardon, mais il est vraiment drôle. Moi je trouve émouvant.
Les interventions
émouvant.
De la cousine m'ont donné envie de me flinguer, voilà, c'est ça, sur l'échelle du rire.
Bah moi justement, je trouve que il arrive à créer encore une fois des situations qui sont drôles, des personnages qui sont drôles, que je trouve aussi malin dans sa manière d'aborder d'autres sujets, typiquement Enora, ce dont tu parlais sur la charge mentale dans le couple, pas de manière nécessairement avec des gros sabots, etc. Et moi je le trouve drôle, je suis désolée, je le trouve drôle, et je pense pas qu'on considère un film nécessairement en référence à un autre, et je pense pas que dans Twilight justement il y ait ce côté comédie.
Ah non, pas du tout.
Voilà, donc forcément, c'est le principe de faire, enfin c'est le principe même de la parodie, tu
oui,
vois.
Oui, mais je pense qu'ils ont, enfin moi ce que je dis c'est qu'ils ont essayé de prendre plein d'influences, dont l'influence Twilight qui est pas drôle du tout, mais aussi l'influence comique de la famille Addams, etc. Et en fait c'est un film, même esthétiquement ils se référencent énormément.
Oui, mais quel film ne se référence pas, enfin
oui,
tu vois, c'est
un, mais je suis bien d'accord.
C'est marrant de faire une critique comme ça,
mais bien d'accord, mais non mais
on avait adoré typiquement le film de Alice Rorschacher, mais c'est la même chose lui aussi. Il est très référencé,
ouais,
tu vois, c'est pas parce que c'est référencé
moi, c'est
que
pas
c'est
du
mauvais.
Tout fait que ce soit référencé, mon problème c'est le fait que ce soit référencé.
Et par ailleurs, pas très bon, donc je trouve que ça souffre beaucoup de ces comparaisons que ça se donne.
Oui, mais du coup, là on n'est pas d'accord sur le pas très bon, parce que moi par ailleurs, je trouve que si le jeu est pas extraordinaire, je trouve que ça marche et que justement les situations comiques font que c'est à la fois drôle et à la fois attendrissant. Et j'ai été prise dans le film et émue.
Bon, et toi, tu penses que appeler quelqu'un Nacho Man, ça mérite de se faire tuer?
Tout à fait. Et que le personnage du gars, justement, qu'elle ramasse en boîte, est super drôle et que les situations d'Alan sont drôles. Même si, effectivement, le passage sur le harcèlement est bon.
Et tu penses que le fait de tuer une chauve-souris devant des camarades de classe, c'est sauvable?
Non, mais je trouve que ça crée des situations drôles, même si, oui, voilà, le discours sur le harcèlement, non, pour le coup, il va avec des gros sabots, quoi. Mais bon, on peut pas attendre de tout, et moi je trouve que je veux pardonner à ce film ses défauts. Je veux pardonner à ce film ses défauts parce que, je sais pas, il a réussi à m'emporter, à créer un univers. Moi je crois que c'est vraiment ça qui a tendance à me toucher dans les films, à créer un univers qui est particulier et qui, moi, m'a emporté. Voilà. Je sais pas si Arthur, t'es d'accord avec moi.
Alors, moi non seulement je suis d'accord avec toi, mais je vais me mettre en faux. Je trouve que c'est le film prend le contre-pied de Twilight complètement. C'est l'inverse de Twilight, parce que dans Twilight, c'est quoi l'objet du désir? C'est le vampire, là, c'est l'inverse. Être un vampire, c'est dégoûtant, c'est chiant, tu dois te cacher, tu bois du sang, tu dois buter des gens. Enfin, je veux dire, c'est l'inverse de Twilight, où, waouh, tu es un vampire, oh, c'est shiny, tu es beau, Robert Pattinson. Mais ça, moi, ça m'a...
Et en plus, il y a 500 ans.
Mais oui, regarde, c'est montré qu'en étant sexy d'avoir 500...
L'amour n'a pas d'âge, mais la prison a des barreaux.
Bref, non, je trouve que justement le film prend à contre-pied l'héritage du vampire sexo-sexy qu'on a depuis que Brad Pitt et Tom Cruise sont mis de la peinture blanche sur le visage. Je trouve qu'il accepte de prendre le vampire comme...
C'était
plutôt...
Robert Pattinson, pardon.
Et je trouve qu'il a cet usage à contre-pied de prendre le vampire comme étant une tare. Alors après, il n'a pas décidé de en faire une comédie brute. Et alors moi c'est un film qui me fait beaucoup marrer, c'est What We Do in the Shadows de Taika Waititi, qui justement en fait prend le concept de vampire et essaye d'en faire un truc crédible, et du coup en effet c'est une société de vampires qui a ni queue ni tête, et pour le coup c'est un film qui est vraiment drôle, mais le film n'allait pas repartir dans cette parodie là qui finalement a déjà été fait. Et là où vous dites qu'il n'arrive pas à choisir dans quel camp aller boxer et tout ça, moi je trouve que c'est ça la force du film, en fait, de faire un film qui est pas drôle, qui a un humour très noir, qui n'est pas violent, mais qui parle de gens qui se sont bouffés, qui arrive comme ça à mêler des thèmes, des genres assez différents entre eux, à le faire tenir dans un film qui, certes, a des petites difficultés, mais je trouve qu'il se tient vachement bien et qu'il y a un propos, en fait, pas si convenu que ça. Parce que si on reprend un propos sur la première fois, ça veut quand même dire que ta première fois, tu peux essayer de la faire dans toutes les manières que tu veux. En fait, le premier truc qui va t'arriver, c'est que ça va être un truc horrible, par accident, dégueulasse, machin. Enfin, je veux dire, c'est quand même un sous-texte hyper noir de ce que ça te dit. Si on veut prendre cette... Bah, si tu
oui,
regardes,
mais c'est... Non, mais oui, je suis d'accord avec toi. Mais après, c'est pas non plus le truc le plus original que j'ai entendu, que tu vois...
Bah, moi, je trouve qu'il a l'honnêteté de prendre sur un truc qui aurait pu être hyper casse-gueule, qui est de prendre le vampire et de me faire un...
tu vois, le truc sur la sexualité, c'est le vampire a presque été créé pour ça. Enfin, peut-être pas Nosferatu, mais...
Si on peut le dire, je pense que le vampire a été créé pour ça, honnêtement.
Mais ceux qui ne sont pas Nosferatu, il y a un truc comme ça...
Nosferatu, excusez-moi, vous avez vu le film ou quoi?
Mais non, moi je trouve qu'il a justement il arrive justement à aller boxer dans une catégorie qui, enfin dans un axe qui finalement a été assez peu traité, un angle mort qui est plutôt malin. Et derrière, je suis d'accord, il y a un gros problème de rythme. Moi je pense que c'est ma plus grosse limite avec le film. Il recommence 4 fois en fait. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a la situation initiale te dure pendant une heure et que finalement l'élément déclencheur va arriver hyper tard dans le film. Et du coup, c'est un rythme assez irrégulier. Assez répétitif, et du coup, bon, c'est vrai que tu peux avoir du mal à retrouver une cohérence au total, mais je trouve que le film se tient bien. Et je suis désolé, enfin, la photo, évidemment que c'est dans le noir, c'est des vampires. Moi, je trouve qu'elle est hyper propre, hyper bien faite, un poil trop stylisé, je dois l'admettre, mais je trouve qu'elle est vraiment jolie et qu'elle.
Surtout quand on voit rien du tout, quoi.
Mais attendez, mais on voit. Mais c'est le
Orange but. Non, mais il y a des façons de créer le noir et de rendre quand même l'univers visible. Ils auraient pu s'éclairer à la chandelle, j'en sais rien.
J'ai eu aucun moment où je vois le film qui
c'est
est.
Peut-être pas que l'espace Saint-Michel n'est pas bien écumé alors.
Moi, je pense que l'espace Saint-Michel n'est
pas. Je pense que c'était l'espace Saint-Michel parce que moi, il y a des moments où je voyais juste pas les arrière-plans. Enfin, je voyais vraiment que le visage éclairé à la lampe blanche par-dessus de la
l'espace Saint-Michel, j'ai eu de mauvaises expériences. J'espère qu'ils ne nous écoutent pas.
On vous adore pour votre programmation.
On adore le fait que vous êtes les seuls à passer les films que vous projetez. Mais parfois, je trouve que j'ai eu des conditions de projection qui n'étaient vraiment pas ouf.
Ouais. J'apprécie toutes ces belles remarques, Arthur. Je pense qu'on... Let's agree to disagree. Mais ce n'est pas grave parce qu'à Popcorn, on est des gens tolérants, effectivement. En revanche, je suis étonnée que personne n'ait sorti cette référence. Et comme je suis la personne la plus âgée de cette pièce, j'espère que vous ne l'ayez pas. Mais Jennifer's Body. Sur tout le thème du vampire et de la sexualité. C'est voyez-le, c'est avec Megan Fox, c'est le rôle de Megan Fox. Et c'est voyez-le, surtout en le voyant aujourd'hui, tu peux le regarder au prisme de toutes nos interrogations sur le female gaze, sur... honnêtement, c'est très intéressant. Il se trouve qu'il n'y a pas très longtemps, et j'en profite pour faire un peu de pub, il y a un média qui s'appelle Contemporaine... non, pardon. Comment ça s'appelle ? Il y a un média magazine qui s'appelle Gaze, que vous connaissez peut-être, qui s'intéresse justement aux représentations au prisme du regard féminin, notamment, et qui organise régulièrement des sessions de projection avec des tables rondes ensuite. Et dans le cadre de leur dernier épisode qui se penche sur la question de la bimbo, ils ont projeté Jennifer's Body, et franchement, c'est vrai que ça vaut la peine d'être vu parce que ça incarne beaucoup, beaucoup de choses. Et surtout, on l'avait pas cité parmi les films de vampires, donc j'en profite.
Très bien, très bien. Et bah, merci à tous d'avoir partagé vos avis. Encore une fois, on est partagé. Vraiment, la pluralité, le débat démocratique sont rois ici.
Même si on est à Sciences Po et que BFM pense l'inverse.
Voilà, je voulais dire, même si le poisson pourrit toujours par la tête. On va vous laisser là-dessus et on vous dit à la semaine prochaine. Bonsoir.
Bonsoir.